Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Eh bien, bonsoir. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Une journée absolument féerique avec la neige. Hein. Je pense que vous avez tous apprécié ces paysages extraordinaires. Enfin, je veux dire, ça change tout. Ce soir, je suis très heureux de rencontrer Étienne Alexis Boucher, ancien député de notre belle province, et qui va surtout nous parler ce soir de la Société Nationale de l'Estrie. Il est venu avec 4 magnifiques chansons, et on va écouter la première, ça sera notre générique de notre émission d'aujourd'hui. Elle s'appelle « L'an 1 », c'est une chanson de Félix Leclerc, et vous allez voir, elle est vraiment extraordinaire, cette chanson. Je vous la mets maintenant.
L'arrivée de l'enfant a été dure pour la mère. Enfin, il est là, bien portant, vigoureux. Déjà, il rue et il crie, il veut vivre. Ses yeux sont bleus avec du vert dedans. Et je le vois puissant, calme, raisonnable et surtout poli. Car moi, la politesse, surtout dans la chicane, m'a toujours étonné. Tirer les premiers, messieurs les Anglais? Non, pas jusque-là, mais un peu mousquetaire, bûcheron et poète. Enfin, le fils est là. Il lui reste à étudier, comparer, discuter les pensées dans les livres, les visages, les lunes, les voisins, les jardins. À découvrir le fleuve, les milliers de soupirs qui font de la musique dans les marais de nuit pour les beaux eaux fragiles. À chausser des patins, à nager sous les lacs, à filer vers la lune en français. Librement. Il lui reste à se pencher sur celui qui demande, mais à se redresser devant celui qui donne, à ne rien accepter de facile, de gratuit. Jamais oui, jamais non, plus souvent non que oui. Voilà comme je le vois. Étudiant jusqu'au soir de sa vie, il couvrira ses petits-fils de lainage, de patience et d'humour, cette arme pour le voyage qui est la plus utile. Il quittera sa maison ouatée de neige, gagnera ou les champs, ou le bureau, ou l'usine, exigera juste salaire, la tête haute, mais ne détruira rien. Vandales et braconniers sont des profanateurs et méritent potence. Il fera face au loup, dénoncera le fourbe. Trop de temps, trop longtemps, la terre fut aux lâches, aux oisifs, aux tricheurs. Qu'il apprenne, lui, mon fils, c'est à son tour, chacun son tour. Elle est belle, elle est là, elle est sienne. Et que la peur de vivre soit rayée à jamais. Tu es chez toi, enfin, vis, goûte, savoure et chante. Ne me remercie pas. Que tu vives, comble mes jours de joie. Bon voyage à toi et à ta descendance.
Quelle belle, quelle merveilleuse chanson, vraiment magnifique. Je la connaissais pas, ce qui n'est pas étonnant, mais bon. Mais elle m'a beaucoup touché. Et ce soir, je suis content de vous recevoir, Étienne Alexis Boucher, parce que vous aussi, vous êtes un personnage touchant.
Eh ben,
c'est une drôle d'introduction.
Ben ouais, c'est un beau compliment. Merci, voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'avoir pensé à moi pour contribuer à cette belle émission. J'ai choisi cette chanson-là parce que il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. On a eu juste le temps de l'écouter une fois, si je l'ai choisie, c'est parce que elle touche à de nombreux aspects par rapport à ce qui, pour moi, est important comme un individu, mais individu membre d'une grande communauté. Hein. Aujourd'hui, évidemment, malheureusement, en guillemets, la mode est un peu tout à notre nombril, hein, tout à l'individualisme, comme si on était des gens, des êtres souverains capables, comment dire, de fonctionner complètement à l'extérieur de la société, que ça ne nous concernait pas ce que nos communautés fonctionnent, ce que nos communautés ont besoin. Et de le voir, ben, je trouve que dans cette chanson-là, il y a justement cette définition d'une certaine philosophie de la vie que, oui, on se doit d'être heureux comme individu, mais on se doit d'être aussi généreux envers autrui, que ça compte, les gens qui nous entourent et, dans le fond, le monde dans lequel on grandit.
On parle du rêve américain. Est-ce que cette chanson, c'est pas le rêve québécois?
Ben oui, quand on parle de filer vers la lune en français librement, évidemment ça en quelques mots on résume, je pense, la destinée que j'espère, comment dire, la destinée, l'incontournable destinée que devrait connaître le peuple québécois. Après ça, l'idée de dénoncer le fourbe, la terre fut trop longtemps trop lâche envers l'oisif, le tricheur, cette idée où une communauté, pour bien fonctionner, elle a besoin de citoyens qui la respectent, qui acceptent de contribuer au vivre ensemble, tout en se respectant, bien sûr, comme individu, mais en nécessairement en faisant certaines concessions. Par exemple, respecter des lois légitimes. Je trouve que cette chanson-là l'exprime bien, ce rapport de l'individu et de son insertion à la société.
Ce fragile équilibre entre l'individu et la communauté. Et vous essayez d'y contribuer, et de belle manière, parce que vous êtes président de la Société nationale de l'Estrie, qui est vraiment une association remarquable, qui prend beaucoup d'initiatives. En ce moment, vous êtes très mobilisé autour de l'Anslam pour le français. Expliquez-nous ça, ce projet.
Ben, vous savez, au Québec, on a un mode d'organisation sociétale complètement unique au monde. Hein. On a un bout de cerveau britannique, tu sais, puis un autre bout français. Si bien qu'on est latin, on aime la fête, la bonne bouffe, mais quand il y a le temps d'attendre l'autobus, ben on fait la file. Hein. Ça, c'est bon. Tu sais. et cette société-là, unique au monde, s'est organisée de manière très particulière. Prenons le cas des cégeps, qui est une instance, une étape dans notre monde éducatif, si on veut se rendre à l'université, qui est incontournable, mais qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs.
C'est vrai,
et un autre bel exemple de cette distinction québécoise, qui est multiple et souvent des plus positives, c'est l'ensemble de la vivacité du monde communautaire, hein, et sous toutes sortes de points de vue, hein, tant au niveau, par exemple, de la santé que de la défense collective des droits. Le monde québécois, le monde communautaire québécois, les fameux organismes constitués sous la partie 3 de la loi sur les compagnies prennent énormément d'importance. Ouais. Souvent vont même remplacer l'État dans des missions qui devraient normalement relever de celui-ci. Mais on s'est créé ce monde-là, qui souvent d'ailleurs sont partenaires du monde étatique. Et un monde qui a besoin de gens qui s'investissent. Le bénévole, en fait, notre économie, une grande partie de celle-ci est rendue possible, entre autres parce qu'il y a des gens qui s'investissent bénévolement. Et pour ma part, j'ai effectivement choisi de m'investir bénévolement dans quelques organismes de toutes sortes. Hein. Je suis, par exemple, au niveau environnemental ou encore au niveau de la culture. Je suis impliqué dans un petit organisme là qui organise le Festival du Masque international du Masque de Saint-Camille. Des trucs comme ça. Mais il y a aussi la Société nationale de l'Estrie qui me permettait comment dire, de contribuer à la promotion des mêmes valeurs qui étaient à la base de mon implication politique avec le Parti québécois dès les années, dès la majorité, là, tu sais, dès que j'ai été majeur. Alors, mais de manière non partisane, issue de la société civile, parce que les partis politiques, évidemment, c'est des véhicules politiques qui sont extrêmement intéressants pour les gens qui veulent changer les choses. Si t'es pas pire en politique, tu peux même finir par gagner des élections.
Ce qui était votre cas, vous avez été député
quand
même.
Mais même comme un parti politique qui remporte des élections, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il contrôle le pouvoir législatif ou les pouvoirs législatifs et exécutifs de la nation. Et en ce sens, il dispose de leviers extraordinaires pour transformer la société.
Ouais,
hein? On a vu l'État québécois est à la base de beaucoup de choses qui aujourd'hui font du Québec un espace unique au monde et qui a de grandes forces. Hein. Prenez notre bas de laine des Québécois, la Caisse de dépôt et de placement. Oui. C'est l'État québécois qui l'a créé. Le No Fault, la Société d'assurance automobile du Québec, toutes sortes de choses qui sont venues par les partis politiques. Mm-hmm. Mais ceux-ci ont des limites, comme n'importe quoi. Et la limite principale, elle est très facile à comprendre. Et c'est le jeu de l'acteur rationnel. Il n'y a rien qui ressemble plus à un électorat d'un pays que l'électorat de ce même pays-là à l'élection d'avant. Ouais. Si bien que les changements qui peuvent survenir entre deux élections. Bien sûr qu'il y a des modifications à la frange du bassin électoral. Ouais. Il y a des gens qui arrivent sur le marché électoral en ayant la majorité, 18 ans. T'sais. Et il y a des gens qui le quittent en mourant. Mais à la fin de la journée, ces changements qui surviennent à la marge ne produisent pas d'effets fondamentaux à l'intérieur de 4 ou 5 ans. Ça prend des décennies avant que ces changements-là finissent par transformer véritablement un électorat. Si bien qu'un parti politique, s'il veut faire des gains, et on veut toujours faire des gains, à moins qu'on ait la coalition Avenir Québec avec 50%, non, plus de 41% des votes, aux dernières élections, il n'y avait plus grand-chose pour eux à gagner, mais ils voulaient les maintenir, tu sais. Et donc, on revient dans une perspective où on veut gagner des votes ou maintenir les votes. Nécessairement, ça va le faire au détriment des autres formations politiques parce qu'on se bat pour les mêmes électeurs. Fait qu'un électeur qui vote pour un parti politique, ben, il vote pas pour les autres. Et si tu veux convaincre cet électeur-là de voter pour toi, ben, c'est bien difficile, par exemple, de le faire en travaillant avec les autres partis politiques, en se disant, ben, c'est donc ben bon les idées que vous avez. Voyez-vous? Donc, nécessairement, le jeu partisan a ses limites en matière de collaboration entre les divers acteurs. La société civile, j'ai pas ça comme obstacle. Tu veux travailler sur la langue française, que tu sois de tel parti politique ou de tel autre parti politique, si on peut, pour un moment très ponctuel, très précis, travailler
ensemble sur quelque chose, un projet.
C'est davantage possible qu'à l'intérieur des partis politiques. Donc, pour avoir connu les deux, je trouve la société civile a bien sûr ses limites. Mais
aussi,
elle
n'a pas le pouvoir, elle n'a pas les leviers.
Elle n'a pas le crayon, mais on peut influencer celui qui, ou celle qui tient le crayon.
Et c'est l'objectif de la Société nationale de l'Estrie?
Oui, en matière de langue française. Puis là, vous m'avez demandé de parler du concours L'Estrie sans slam pour le français.
Oui, tout à fait.
C'est assez simple. L'origine de ça, en fait, c'est je suis arrivé à la direction de la Société en février 2020, même si je la préside depuis sa fondation en 2015. Et je réfléchis à comment développer l'organisme, quelle idée je pouvais mettre de l'avant qui réussira à convaincre des partenaires d'investir, par exemple, dans la société nationale. Et cette idée-là m'est venue sur un principe assez simple. Je veux promouvoir le français. Roughly, il y a deux façons. Ou bien j'utilise le bâton, ou bien j'utilise la carotte. T'sais. Le bâton, c'est quoi? C'est la loi 101, c'est les règlements issus de la Charte de la langue française, c'est les plaintes à l'Office québécois de la langue française.
Et qui sont des combats difficiles?
Ça peut se révéler difficile. Prenez le gouvernement actuel, bien qu'il ait rénové de manière que l'on doit saluer, la Charte de la langue française par le projet de loi 96, d'accord, a jamais accepté que les dispositions de la nouvelle Charte de la langue française s'appliquent au niveau collégial. Or, c'est démontré, genre 75% des gens qui vont au cégep dans une telle langue vont pratiquer leur métier dans cette même langue. Alors, je veux dire, nécessairement, donc, la très grande majorité des étudiants qui vont au cégep, par exemple anglophones, ont de très bonnes chances de travailler en anglais plus tard. Évidemment, ça a un impact, donc, sur des décennies dans de multiples sphères de la société, dont la langue au travail. Maintenant, on revient... donc, des fois, c'est même au niveau du bâton, c'est difficile parce qu'on ne réussit pas à convaincre celles et ceux qui tiennent le crayon d'aller aussi loin qu'on aimerait, qu'on pense que c'est nécessaire.
Mario Beaulieu en parlait la semaine dernière.
Exactement. La carotte, elle, c'est le fait de faire aimer la langue. Tu sais, si vous aimez quelque chose, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous oblige à en prendre soin. Hein? Mm-hmm. Vous aimez... vous aimez votre conjoint. Ben, il n'y a pas de loi qui vous oblige à l'aimer ou votre conjoint. Il n'y a pas de. Tu sais, ça se fait de manière naturelle. Alors, l'Estrie sans slam, ça a pour objectif de faire redécouvrir toute la beauté, les multiples possibilités qu'offre la langue française pour s'exprimer, pour décrire ce qu'on vit en dedans, mais aussi pour s'ouvrir au monde. Hein. Souvent, bon, en France, vous l'avez moins, bien que, mais au Québec, des fois, on trouve que. Me semble que tel mot ou telle obligation, ça l'irait si bien si on utilisait un mot d'une autre langue. Autrement dit, des fois, le français, on pense qu'il a besoin d'une autre langue pour se compléter, pour être à même d'exprimer, nous, tout ce qu'on vit ou comment qu'on veut décrire le monde. Oui. Je pense que le français n'a pas besoin d'une deuxième langue pour décrire le monde. Et le slam visait à permettre aux jeunes de 16 à 35 ans, aux jeunes estriennes et estriens, de redécouvrir ce fait inéluctable que le français offre toutes les possibilités que vous pourriez imaginer pour vous exprimer et décrire le monde tel que vous le voyez.
En plus, ce projet est intéressant parce qu'il associe aussi plein d'autres choses, plein d'autres idées. Alors moi, j'étais à une des soirées qui a été organisée et c'était une soirée LGBT, par exemple. D'ailleurs, la semaine prochaine, on recevra l'association LGBT de l'université de Sherbrooke. Et c'était intéressant parce qu'il y avait à la fois donc cette promotion du français, cette expression par le français, et en même temps le vécu aussi de ces personnes qui pouvaient exprimer justement grâce à cette langue toute la force de leur souffrance, hein, de leurs sentiments, de leurs émotions. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir associer au français non seulement l'expression poétique en tant que telle, mais pouvoir aussi la greffer en quelque sorte sur d'autres formes de mouvements, de réunions associatives, de multiples formes, de toutes les façons qu'il soit. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment dans cette démarche de la Société nationale de l'Estrie, une démarche de rassemblement un peu des Québécois. Le français, c'est le ciment de ce peuple, et je trouve que vous arrivez parfaitement à en faire quelque chose de vivant. C'est triste de dire ça quelque part, parce qu'on a l'impression que la langue serait morte. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est vrai, on le vit, c'est cette difficulté à revivifier la langue. Et vous y arrivez. Et je trouve que c'est un beau projet, franchement. Je vous félicite par rapport à ça.
Qui vient de se terminer. Malheureusement, les participantes et les participants qui voulaient s'y intéresser et participer n'avaient que jusqu'à vendredi dernier.
Mais vous le renouvellerez, je pense.
On va essayer, en tout cas. On va essayer de convaincre les donneurs d'ouvrages que c'est un projet qui vaut la peine d'être poursuivi. Parce qu'effectivement, Il y a beaucoup de... Évidemment, le français, c'est un ciment. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est le véhicule qu'a besoin de notre culture pour décrire le monde.
Et qui vous identifie.
Exactement.
Qui vous fait peuple.
Et le fait de tenir des ateliers pour favoriser l'utilisation du français dans divers milieux de vie, comme en classe, ben pour nous, ça tombait sous sens parce qu'effectivement, notre société, elle est plurielle. Et ben on trouve ça beau, comment dire, que le français puisse rayonner dans toutes sortes de milieux et pour toutes sortes de raisons, dont la poésie.
Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, on va mettre la deuxième chanson. Votre deuxième choix, juste...
Ça, c'est la beauté d'être technicien, producteur, réalisateur de sa propre émission. Je vis la même chose sur les ventes de Félix.
La beauté, je ne sais pas, mais parfois, mes yeux me jouent des tours et la table est grande. Et donc, des fois, je me trompe de touche. Voilà, tout simplement. Les étoiles filantes, votre deuxième choix.
Des Cowboys fringants, un hommage à notre ami Carl Tremblay qui nous a quittés malheureusement.
Et on parlera un peu de ça et on va parler des droits collectifs.
Ouais, ben je vais vous... Ça va venir, inquiétez-vous pas.
Et c'est parti.
De ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Cette école et de la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Petit passage dans ce monde effréné, après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Les étoiles filantes.
Les étoiles filantes, les cowboys fringants.
Grand-messe, 2004.
Un traumatisme.
Un traumatisme?
Dans la société, la mort de cet homme.
Bah, ça l'a démontré que à quel point les gens... comment dire? Qu'on pouvait être touché encore de manière sociétale. Tu sais, dans le fond, c'est les caricatures, c'était le Québec pleure quand Tremblay. Oui. Puis je pense qu'en quelques heures, tous les sites d'écoute en ligne ont été, mais complètement, les tendances complètement inversées par un petit territoire de 8 millions d'habitants. Là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas beaucoup, là, mais là, en Amérique du Nord, tout d'un coup, les chansons des Cowboys fringants étaient parmi les chansons les plus écoutées. C'est dire à quel point tout le monde écoutait ça. Tu sais. Et donc, ça l'a démontré que les artistes, d'abord, pouvaient rayonner jusque, tu sais, toucher monsieur et madame tout le monde. Là, tu sais. Et ben, quelque part, que les gens ont besoin aussi d'être touchés par des personnes qui portent un certain message.
Et ça a ému parce que j'ai même vu des articles dans la presse américaine qui ont parlé de l'émotion que ça avait suscité dans le peuple québécois. Ça a été son dernier geste, finalement. Il a fait parler du peuple québécois, y compris dans la presse américaine.
Ouais,
qui a été interpellé par cette émotion collective.
C'est un départ qui a résonné jusqu'en Europe, alors que les Cowboys fringants avaient quand même connu un certain succès au niveau international. Parce qu'on semble oublier, mais la francophonie, c'est grand, puis ce n'est pas que la France non plus, de plus.
Tout à fait.
Là, donc, c'est intéressant. Puis, moi, si j'ai choisi cette chanson-là, parce que, bon, c'est pas toujours évident, quatre chansons différentes qui nous permettraient d'aborder certains sujets. J'ai choisi ça parce que j'ai toujours eu, ça remonte à très jeune, cette espèce de conscience de la brièveté de la vie. Tu sais, le temps est la seule ressource ou une des seules ressources non renouvelables. C'est-à-dire que vous consacrez une seconde, une heure, une journée à faire quelque chose, jamais plus vous n'aurez cette seconde, cette heure, cette journée pour faire autre chose. C'est terminé. Un coup, c'est passé, c'est passé. Et d'où l'importance d'être conscient que de bien utiliser son temps. Puis l'idée n'est pas que j'ai toujours senti une urgence de vivre, mais je pense pas que je meurs jeune. Tu vois ça, déjà à 45 ans, bientôt, je suis pas si jeune que ça. Il y en a malheureusement ils ont déjà quitté depuis quelques années. Mais comme tout le monde, j'espère vivre, mourir de vieillesse dans mon sommeil après avoir emmailloté mes petits-enfants, voire mes arrière-petits-enfants. Tu sais, là n'est pas la question. C'est plutôt qu'il y a un risque. Tu sais, je me rappelle très rapidement, Mindy, ben, tu sais, vous savez, des fois, on dit que juste avant de mourir, par exemple, lorsqu'un accident arrive, on voit notre vie défiler en quelques secondes. Tu sais. C'est difficile de savoir si c'est vrai, cette affaire-là, puis probablement que c'est faux. Tu sais, bien que, des fois, on a eu peur de mourir, puis on a eu, effectivement, sans être mort, cette vie qui a défilé devant nous en l'instant d'un quart de seconde. Et je me suis toujours dit que si ça avait arrivé, faut que, à ce moment-là, bien que je sais que si on me donne plus de temps, je vais toujours accomplir plus de choses, mais il faut qu'à ce moment-là, si ce quelques fractions de seconde me permet d'être satisfait ou pas de ma vie, ben, il faut que ce soit le cas.
L'essentiel est que nos vies ne fussent pas vaines, disait Mirabeau.
Si on veut. Tu sais, donc, à 28 ans, bien sûr que j'avais pas fait autant que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je me suis dit que si j'étais mort à 28 ans, je me suis arrangé pour, pour que j'aurais été fier de ce que j'aurais fait, puis j'aurais aimé la vie que j'aurais eue si elle s'est arrêtée à 28 ans. C'est ça que je veux dire.
C'est important de vous sentir utile, de cet engagement pour vous. On le sent, vous, quand vous
le dites. Ah, ben ça, on en parlera après le Partisan.
On en parlera après
parce que j'ai choisi le The Partisan de Leonard Cohen d'un album de 1978 pour décrire justement l'importance de l'engagement social. Mais vraiment, j'ai choisi Les Étoiles filantes simplement pour rappeler jusqu'à quel point nos vies ont l'air d'être longues, mais au final, pas vraiment. Puis si on attend toujours à demain pour accomplir des choses, ben ça se peut qu'on n'en accomplisse pas tant. L'idée, tu sais, et bien sûr et là je veux pas verser dans le carpe diem puis vivre au jour le jour puis no future puis ça n'a pas rapport, tu sais.
Ouais,
moi je suis entre autres heureux dans le présent parce que je me projette dans l'avenir, mais je ne fais pas que me projeter dans l'avenir.
Vous essayez de le construire.
On fait les deux. Tu sais, c'est un peu marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Il faut vivre le présent pleinement, parce qu'on ne sait jamais, mais de le vivre pleinement ne doit pas empêcher de planifier l'avenir, alors que tout ça dans un contexte où, au final, nos vies passent de plus en plus rapidement. Hein. Quand vous êtes au primaire, l'été entre le niveau 4 et 5 vous a semblé une éternité. Vous avez changé d'amis, tout ça. Puis lorsque vous avez des enfants à 45 ans, pour vous, l'été, c'est 8 semaines dans lesquelles vous devez caser les enfants parce qu'ils vont pas à l'école. Je vous jure que ça, l'approche au temps n'est pas le même, on va dire ça comme ça. Là,
les droits collectifs, ça fait partie de cette construction de l'avenir?
Oui, mais on ne parle pas là, de mon avenir personnel comme individu.
Oui,
on parle plutôt de l'avenir...
J'avais compris que...
Oui, voilà. On parle de l'avenir de la nation québécoise. En fait, je milite pour... le Québec, on va dire ça pour... Mais là, quand je dis le Québec, on pourrait résumer au développement de la nation québécoise de manière générale. Je prône des politiques économiques qui permettent au Québec de s'enrichir, aux Québécoises et aux Québécois, hein, pas juste aux entreprises québécoises.
Évidemment,
on s'entend.
J'entends bien.
Comment dire... Je m'investis pour le Québec. J'ai l'impression de le faire depuis très longtemps. Évidemment, je l'ai fait au niveau politique. Puis là, au niveau politique, à quoi on associe le Parti québécois? Évidemment, la défense de l'identité québécoise qui se décline sous toutes sortes de choses. Mais évidemment, sur la langue, ça en faisait partie. Avec le temps, et c'est le temps long qui m'a permis d'en arriver à DCQ, c'est-à-dire que je me suis d'abord et avant tout impliqué comme un militant politique à l'intérieur du Parti québécois ou du Bloc québécois, c'est-à-dire qu'on avait là un véhicule qui permettait d'avoir un impact sur le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif de la nation québécoise, alors qu'on l'a vu, je considère que c'est deux des pouvoirs qui permettent le plus de transformer une société. C'est pas les seuls, mais c'est quand même les parmi les deux principaux, si on peut dire. Puis, le Parti québécois n'était pas pire jusqu'à présent pour gagner des élections. Bon, ça a été un peu moins bien durant, entre 2003 puis 2018. Tranquillement, pas vite, il semble relever la tête.
Mais il a l'air, oui, effectivement. Oui.
On regarde, par exemple, le mandat gouvernemental de 1976 à 1980. C'est un mandat gouvernemental extraordinaire. Là, on a créé toutes sortes de choses, le ministère de l'Environnement, la Société d'assurance automobile du Québec. Écoutez, c'était vraiment... Le grand Mario que c'était quelque chose. Tu sais. tout ça, et ça remonte bien avant le Parti québécois, les Québécoises et les Québécois ont bien compris l'importance de ces pouvoirs-là. Je reviens à 2022, exemple. En 2022, les Québécois et les Québécoises ont voté, ils ont eu un taux de participation de 67%. Aux élections de 2022. Mm-hmm. C'est pas les 85% qu'on avait jusque dans les années 90, mais la nation ontarienne votait à 43% et en 2022, et les États-Unis, eux, ont voté à moins de 50%. Autrement dit, au même moment, les Québécoises et les Québécois ont voté jusqu'à 20% de plus aux élections.
Ils sont plus soucieux de leur avenir?
C'est-à-dire qu'ils ont conscience de l'importance des pouvoirs exécutifs et législatifs dans l'organisation du vivre ensemble. on va voter, on a formé des partis politiques, on a formé des organisations comme la Société nationale qui est membre d'une fédération, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Il y a toutes sortes d'organisations. Je suis membre, par exemple, du Rassemblement pour la laïcité, Impératif français. Il y a des organismes de toutes sortes, là, vraiment, là, tu sais, comme pour promouvoir ce qu'on pourrait appeler des enjeux politiques, sociopolitiques, si je peux dire.
T'sais. Face à tous ceux qui sont pessimistes, justement, cette vivacité associative, cette mobilisation dans la société civile, etc., de tous côtés, est-ce que ça donne des bonnes raisons solides d'espérer dans l'avenir?
Ben, c'est plate en... Là, je vais rester poli, là, mais c'est plate d'être pessimiste, dans le sens que prenez l'indépendance du Québec. Moi, j'y milite à tous les jours pour qu'un jour le Québec devienne un pays. Je sais qu'il y a peu de chances que ça arrive. Ben, il y a des chances que ça n'arrive pas. On va dire ça comme ça. Puis d'aucuns pourraient être extrêmement pessimistes quant aux chances que ça survienne. Je ne sais pas si c'est 50-50, mais je serais malheureux en me disant ben je laisse tomber parce qu'il y a des chances que ça n'arrive pas. Tu sais, qu'il y a plusieurs raisons qui feraient en sorte que je pourrais être pessimiste quant à cette perspective-là. Donc, évidemment, on ne connaît pas l'avenir. Donc, on n'est pas à même de dire, ben, on a-tu raison d'être pessimiste ou optimiste? Moi, de manière générale, j'aime être optimiste parce que ça me permet d'espérer et l'espoir m'est important. Ça me rend heureux aujourd'hui, tu sais, d'avoir cet espoir-là. Maintenant, je reviens à Droit collectif Québec. L'idée, c'est que les Québécois, les francophones, on a bien compris donc l'importance de l'exécutif et du législatif dans l'organisation du vivre ensemble. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est l'importance du judiciaire dans l'organisation du vivre ensemble. Et ça a c'est d'autant plus important au Québec qui est un territoire inclus dans ce non-pays qu'est le Canada et qui a décidé que la construction de la nation canadienne ne pouvait se faire en ayant une autre nation vigoureuse en son sein, si je peux dire. Mm-hmm. Malheureusement, les Canadiens et les Canadiennes ont fait le choix que la construction de la nation canadienne, là, je vais appeler le nation building, là, c'est l'expression qui est ne pouvait pas se faire avec le Québec. Ça pouvait pas se faire avec la nation québécoise.
D'où ce que Mario Beaulieu a expliqué un peu la semaine dernière, il a expliqué comment finalement le fédéral est en train d'essayer progressivement d'angliciser
oui,
le Québec.
Oui, tout à fait, exactement. Puis ben ça fait partie du plan si on veut, tu sais. Mais ce que je veux en venir, c'est que les tribunaux, ils sont une branche de l'État canadien.
Oui.
Comme le gouvernement, comme le roi, et comme, tu sais. Et donc, à l'instar des autres branches de l'État canadien, elles doivent contribuer à la construction de la nation canadienne. Je dis pas que les tribunaux font pas leur job en matière de droit civil ou de droit criminel.
Bien sûr.
Mais lorsqu'il vient le temps de tirer la ligne sur jusqu'où va la liberté d'expression, par exemple, ou comment arbitrer un conflit entre la liberté de religion puis la liberté de conscience, par exemple. T'sais. Là, un tribunal, qu'est-ce qu'il fait sinon de la politique?
Bien sûr.
T'sais. Et en ce sens, ben, il promeut une vision de la société. Et cette vision-là est nécessairement une vision incarnée par le multiculturalisme canadien, la Pierre-Éliott Trudeau, par le faux bilinguisme canadien, etc., etc. Donc, autrement dit, les tribunaux, lorsque vient le temps de trancher des questions politiques, ben, elles tranchent de manière à promouvoir la vision canadienne des choses et non celle québécoise. Droit collectif Québec est une réponse à ce fait-là, ce défi. Oui.
Tout à fait. D'accord. Alors, on va écouter maintenant, bah justement, hein, la chanson de Leonard Cohen qui s'appelle donc The Partisan. Désolé pour l'accent. Et elle est partie, voilà. Elle est rendue à 4 secondes. Pour l'instant, on ne l'entend pas. La voilà.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children.
but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. The graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi. Ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Magnifique chanson. Pourquoi cette chanson?
Ben, on en a parlé un petit peu. Dans le fond, j'ai très rapidement, autour de la table à la maison, mes parents discutaient. Ben, d'abord, on mangeait ensemble, là, ce qui peut paraître surprenant aujourd'hui au Québec. Mais on avait vraiment des moments de souper. Là. On mangeait toute la même affaire en même temps à la table. Et bon, évidemment, nous, on était un peu saoulés des questions genre « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? » de nos parents. Puis, bon, fait que très rapidement, comme on n'avait pas grand-chose à dire, nos parents discutaient entre eux. Et ils discutaient des choses de la cité, quoi,
ouais,
de ce qui se passait dans leur boulot, dans le village, je viens d'un petit village, Saint-Denis-Brompton, en Estrie, évidemment au Québec, tu sais, très rapidement, pour moi, mon père s'est toujours impliqué, on faisait des parades lors de la Saint-Jean-Baptiste, je comprenais pas, mais on était dans une remorque avec des drapeaux, puis on saluait le bon, c'était bien drôle, tu sais, dans notre petite rue là, au lac Montjoie. Mais donc, très rapidement, je comprenais que mes parents s'intéressaient pas juste à ce qui les concernait eux, mais ce qui concernait aussi la société. J'ai été sensibilisé à ça. Après ça, je me suis pas impliqué dès mon plus jeune âge. Là, je l'ai juste fait constater, mais j'ai été élevé comme ça, c'est-à-dire d'une manière telle que on se doit de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. J'avais ce qu'on peut appeler certains talents en sciences humaines, par exemple. J'adorais l'histoire, la philosophie, bon, tout ça. Très rapidement, je me suis inscrit en sciences politiques. Parce que je trouvais qu'il y avait là une clé pour ou plutôt de meilleurs outils pour comprendre à nouveau qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis comment que des sociétés peuvent en venir à perdre leur démocratie. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement aux États-Unis depuis quelques années, malheureusement. Même si c'est quelque chose qui était prévisible, ça s'accélère.
Et parlons même pas de l'Europe.
L'Europe, je sais pas, c'est plus loin pour moi. Évidemment, je m'intéresse à ce qui se passe en Europe, mais je l'ai pas vécu comme vous. Donc le Partisan, ce qui est intéressant avec le Partisan, c'est que comme le Partisan, j'ai toujours eu besoin d'occuper un emploi qui me dépassait. J'ai toujours eu besoin de travailler.
Qui était utile.
Ce que je veux dire, c'est que tu t'es, je sais pas moi, t'es une chaîne de montage sur un... T'es un constructeur, t'es un travailleur de la construction, une travailleuse de la construction. C'est utile en tabarouette là, que tu sois là.
C'est une chance que t'es
là. T'es un agriculteur, là, t'es une agricultrice. T'es utile, là, t'sais, parce que tu permets à tout un chacun de combler ses besoins. T'sais, donc, c'est pas une question de... Je veux pas faire de comparaison. Tu sais, souvent, par exemple, quand j'étais en politique, on me disait « Ah, hey, tu travailles fort, tu sais. » Ben oui, je travaille fort 75, 80, des fois 85 heures semaine, comme les agriculteurs, comme les entrepreneurs. Oui, là, on travaille fort, mais on n'est pas les seuls, tabarouette.
Ce souci des autres, c'est vraiment quelque chose qui est marquant chez vous. Vous voyez, c'est rien que ça, ce petit passage. Vous allez tout de suite, les agriculteurs, les ouvriers, les gens simples qui vivent aussi cette vie, qu'on oublie beaucoup. Et vous avez toujours à cœur d'en parler. Cette sensibilité pour les autres, ça vient d'où?
Ça vient de ma famille, ça vient de mon père avant de m'avoir étudié comme curé, hein, c'était sa façon de redonner à la communauté. Heureusement, il a changé d'idée après avoir visité le Brésil. Je suis là aujourd'hui pour vous parler grâce à ça. Mais ça vient vraiment de mon éducation, puis cette prise de conscience à nouveau qu'on n'est pas, on est intrinsèquement lié à notre communauté. Vous savez, si je suis la personne qui vous parle aujourd'hui, c'est parce que je suis né au Québec. C'est parce que j'ai donc bénéficié d'un système d'éducation que m'offrait cette société-là. C'est à cause de la famille dans laquelle j'ai grandi, une famille genre petite bourgeoise, là, profession libérale, fonctionnaire, professeur, travailleur social, des choses comme ça, mais qui a jamais fait de cas par rapport à ce statut-là. Moi, je me rappelle très bien que ma mère venait nous porter dans des HLM, alors que je m'étais fait des amis à l'école qui n'avaient pas du tout le même niveau de vie. Ouais. Jamais, jamais elle m'a glissé un mot par rapport à ça. Jamais elle m'a fait sentir que peut-être que je pourrais voir d'autres amis. Jamais. T'sais. Pourquoi? Parce qu'au fond, tout le monde se vaut à quelque part.
Oui, bien sûr.
Après ça, on a des intérêts qui nous rapprochent plus de certaines personnes que de d'autres. T'sais. Bien sûr. T'sais. Mais outre ça, regardez, moi, j'ai gagné ma vie étudiante d'un shop. T'sais. Fait que les gars de shop là, puis les filles de shop que j'ai croisées, ben ces gens-là, j'avais pas de raison de ne pas leur... de pas en guillemets les aimer, de pas leur accorder l'importance qu'ils ont comme être humain, tu sais. Donc l'idée du partisan, c'est l'idée que bien sûr qu'il faut travailler à son bonheur individuel, parce que je me prive pas, hein, inquiétez-vous pas, j'ai une femme magnifique, j'ai trois enfants, on vit sur une belle petite terre à Stoke, je veux dire, j'ai tout pour être heureux, j'ai fait des choix aussi qui m'ont rendu heureux, mais à ce bonheur individuel là est aussi lié cette idée qu'il faut prendre soin de notre communauté. Prendre soin de notre communauté, c'est de prendre soin des gens, de celles et ceux qui la composent. Mmh. Et donc, lorsque je prends soin de la société québécoise, ben au fond, je prends soin de moi, je prends soin de mes enfants, puis je prends soin des gens qui m'entourent. Fait que ça me fait du bien.
J'entends vraiment un humaniste.
Je suis né en 1980. Hein. Tard, là, en 1978, là, mais reste que j'ai un peu plus de classique en moi là, comme éducation. Là.
Mais c'est vrai, ça s'entend. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est touchant, vraiment. Voilà, c'est chouette. Je me permets ce commentaire personnel. Après tout, c'est mon émission. Alors, plus rien ne m'étonne. On va écouter cette chanson.
de voilà. Tikenja Fakoli, coup de gueule. Voilà, je pense que ça remonte à 2012.
Je ne suis pas permis de dire le nom parce qu'effectivement, j'en ai un peu de mal, je crois.
Mais il venait chez Abruque une couple de fois, Tiken.
D'accord, en plus.
Un grand artiste.
Ah ben, je ne connaissais pas, j'ai découvert la chanson en l'enregistrant pour l'émission. Et j'ai bien aimé cette chanson aussi. Eh bien, on va l'écouter et vous allez nous dire après pourquoi vous avez choisi celle-là.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne
Je me répète hein, quand je dis ça, mais c'est vrai, j'aime beaucoup les chansons que m'amènent mes invités en général. Ça me permet, c'est ce qu'on disait en off, mais ça me permet de découvrir la chanson québécoise. Et j'ai bien aimé les choix d'aujourd'hui. Pourquoi cette chanson?
Ben, j'ai toujours été touché par les inégalités. Je déteste l'injustice. Et, au Québec, comme ailleurs dans le monde. Et bon, pour avoir voyagé en Amérique centrale, à Cuba, au Mexique, pour avoir voyagé en Inde aussi, hein. L'Inde, c'est quelque chose, là. Sérieusement, c'est pas... des gens qui se contentent de voyager, par exemple, aux États-Unis, voire même en Amérique latine, mais bon, c'est un peu moins, là. Mais États-Unis, Europe, là, ont aucune conscience de ce qu'on peut voir...
dans le reste du monde.
Tu sais, je veux dire, que ce soit en Europe, voire même en Amérique latine, reste qu'on a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Hein? Oui. La religion, ou les religions, par exemple. Au niveau des Américains, ben, c'est l'idée d'avoir peuplé des continents qui étaient habités, oui, mais qui, quand même, présentaient tout un ensemble de d'opportunités. Lorsque vous débarquez en Afrique, lorsque vous débarquez en Inde, que vous débarquez en Asie, par exemple, au Japon ou en Chine, là, vous en avez moins des choses dans lesquelles, avec lesquelles vous pouvez faire des liens avec ce que vous connaissez déjà. Puis ils ont partagé le monde, c'est un peu... moi, cette chanson-là me... comment dire... me rejoint énormément parce que je les imagine là, dans leur salon à fumer un cigare à Londres. Là, tu sais, là. Puis là, il y avait comme une espèce de carte là, avec leurs règles. Puis là, ben OK, toi, là, regarde, on va tirer la ligne là, puis l'autre ligne là. Tu sais, parce que vous regardez l'Afrique, c'est ridicule. Là, les frontières, elles sont dessinées au crayon sur la carte. Là,
ça explique bien des guerres d'aujourd'hui.
Ben oui, puis ça n'a rien à voir avec ce sur quoi entre guillemets, des frontières peuvent plus reposer, par exemple. Des obstacles géographiques comme des chaînes de montagnes ou encore des océans, par exemple. T'sais, c'est assez évident là, ce qui sépare l'Europe du Canada. Là, c'est un océan.
Oui.
Mais l'Europe, l'Afrique, c'est pas ça. Ni l'Inde, d'ailleurs. Alors, cette idée où des gens, malheureusement, quelques nations européennes, dont nous sommes les descendants, mais on n'est toujours quand même pas responsable de ce que ces gens-là ont posé comme geste il y a 300-400 ans. Ces gens-là ont divisé le monde et d'une façon telle qu'encore aujourd'hui, ça va mal. Prenez le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit qui ne se réglera jamais dans le cadre actuel du système international. Jamais. L'ONU ne peut régler le conflit israélo-palestinien. Si ça avait pu survenir, ce serait déjà fait.
Oui, depuis 70 ans, oui.
Cette chanson-là, finalement, je l'ai choisie parce qu'elle nous rappelle à quel point le monde est inégal, que l'Occident, parce que c'est de l'Occident dont il est question, y a malheureusement contribué et qu'à quelque part, on se doit... à nouveau, on n'a pas à réparer les erreurs de nos ancêtres, mais on se doit aujourd'hui de ne pas se contenter de ce qu'ils nous ont légué, mais de travailler à ce qu'il y ait une meilleure, un plus grand respect entre les différentes nations. C'est évidemment complètement utopique, là. L'être humain étant ce qu'il est, je ne vois pas une forme de gouvernement mondial comme quelque chose de nécessairement souhaitable. Je suis plutôt du type small is beautiful. Le jour où il va falloir aller à New York là, pour quitter de l'assurance-emploi, je peux vous le dire, ça va mal aller.
Nations libres. Capable de s'associer plus
exactement,
qu'une espèce
bien sûr.
De truc mondialiste.
Vous savez, l'Europe, vous avez l'air monté contre l'Europe avec certaines raisons, mais...
Oui,
mais l'Europe part d'un principe intéressant, c'est-à-dire de faire en sorte que les nations entretiennent des liens tels que jamais ils ne puissent se faire la guerre.
Sauf qu'en écrasant les nations, le projet de l'Union européenne a fait que, en voulant nier l'identité des peuples, on a fait qu'exacerber, au contraire, les replis. Ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses. Et moi, je me rappelle, j'étais jeune, et on nous disait l'Europe, ça sera la paix et la prospérité. 30 ans après, on est obligé de constater que malheureusement, l'Europe aujourd'hui, c'est la guerre et la pauvreté, la misère qui se répand partout. Voilà. Bon, mais
l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'était quand même une idée intéressante. Cette idée de voir les nations être liées à un point tel qu'il n'y a aucunement l'intérêt de se faire la guerre. Après ça, ça a été mal appliqué. Mais
moi, j'ai tendance à penser que l'enfer est pavé des bonnes intentions fédéralistes.
Ouais. Même ou confédéraliste.
ou peu importe, l'une ou l'autre, en tout cas, voilà. Est-ce que justement le Québec, par son histoire, par son particularisme, par une histoire qui est quand même extraordinaire, parce qu'il est arrivé quelque part un peu de France, il a cette part d'anglais, vous le disiez au début, est-ce que ce n'est pas justement une chance pour l'Occident, si un jour le Québec devient libre, indépendant, de proposer un modèle de société justement plus harmonieux, qui ferait la preuve qu'une nation ayant une histoire qui mélange les deux plus grandes civilisations françaises et anglaises.
Je veux dire comme je le pense. Je pense que le Québec aurait beaucoup à apporter au monde. Puis c'est pas parce que je suis chauvin ou autre.
Non, je l'entends
bien. Écoutez, on n'est même pas un pays, que c'est ici qu'on a rédigé la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO. C'est à l'Université de Laval que ça a été écrit. Le Québec l'a imposé au Canada en passant par l'UNESCO. Le Québec est une société profondément pacifiste. On est une puissance culturelle phénoménale, tu sais, avec des succès en matière de chansons. Au niveau des arts, là, cinéma, chansons, art du cirque, écoutez, c'est phénoménal. Au niveau du sport aussi, de plus en plus, les athlètes québécois et québécoises, en dépit souvent des difficultés qu'elles ont à se faire reconnaître au sein des instances sportives canadiennes, réussissent sur la scène internationale. Donc, à la question, bien, après ça, le Québec a ses défauts, puis on ne fera pas du monde un lieu plus sûr comme ça, à nous tout seuls. Mais demain matin, le Québec est un leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors qu'aujourd'hui, il n'est qu'une entité administrative d'un pays qui compte parmi les pires fossiles du monde. Alors, je pense que le monde aurait intérêt à avoir un pays de plus qui vient défendre la cause environnementale, comme ce serait le cas avec un Québec souverain, alors qu'on a un des meilleurs bilans au niveau des émanations de carbone. Puis on n'est pas parfait, hein. Nos ressources naturelles, on ne les exploite pas toujours bien, tout ça. Alors... Mais on a quelque chose à apporter au monde en matière environnementale, en matière culturelle, en matière politique. Ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. Tout en se donnant les moyens de faire honneur à cet immense héritage que nous avons reçu, c'est-à-dire un flanc de l'Amérique accroché à un magnifique fleuve et qui s'exprime dans une langue unique qui est celle qu'est le français.
Oui, et puis je salue votre honnêteté, parce que beaucoup de gens parlent d'environnement, d'écologie, de sauver le climat, mais vous le faites, parce que vous voulez en voiture électrique. Voilà, donc... Je veux dire, vous mettez en conformité vos idées avec vos gestes. Donc ça aussi, ça vous rend crédible dans votre parole parce que vous faites preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner. Ça a été un plaisir, vraiment, vraiment, un vrai plaisir.
Ça a été un plaisir partagé. Je peux vous dire, Bruno, que quand que la Société nationale se met à parler d'environnement, par exemple, ou de slam, on surprend les gens.
Oui,
les gens ne nous attendent pas là. Mais écoutez, ça concerne la nation, donc on s'y arrête.
Mais je tiens à le dire, ce que vous faites est vraiment remarquable et louable. Et en tant qu'homme, vous démontrez vraiment quelque chose. C'est exemplaire. Voilà,
merci beaucoup et j'espère que l'émission vous aura plu.
Ah oui, tout à fait. et à nos auditeurs, je suis certain aussi. La semaine prochaine, on recevra l'association LGBT de l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie encore et de votre fidélité à tous parce que je sais, j'ai entendu dire que l'audience était bonne pour cette émission. Donc je remercie aussi nos auditeurs. Voilà, on continue sur CFAQ. C'est repris, il est 19h03. Désolé pour le retard. Ciao.